Nacional.
Géopolitique, Richard Labézière.
Géopolitique, deuxième partie de notre édition spéciale consacrée à la Syrie, aux relations franco-syriennes, aux pourparlers de paix indirecte engagés entre Damas et Tel Aviv par l'intermédiaire de la Turquie, à la situation régionale au Proche-Orient et au lancement de l'Union pour la Méditerranée, autant de questions développées dans une interview accordée mardi dernier par Bachar el-Assad, le président syrien, à RFI et TV5 Monde. Alors pour réagir et commenter cette interview, comme annoncé en début d'émission, nous avons le plaisir de recevoir Hervé de Charette. Hervé de Charette, bonjour.
Bonjour.
Vous avez été ministre des Affaires étrangères du gouvernement Juppé entre 1995 et 1997 et particulièrement impliqué dans ce qu'on a appelé les accords d'avril, signés le 30 avril 1996, stipulant que l'armée israélienne et la résistance ne devaient pas bombarder des populations civiles. Mandaté par l'ONU, un comité de surveillance était chargé de veiller au respect de ces accords d'avril. La France et les États-Unis présidaient alternativement ce comité. Alors, Hervé de Charette, comme moi, vous venez d'entendre le président syrien se féliciter du rétablissement de la relation entre son pays et la France, un rétablissement somme toute spectaculaire et rare dans la vie diplomatique. Monsieur le ministre, pourquoi la Syrie et la France étaient-elles fâchées depuis presque 5 ans?
Elles étaient fâchées parce que il y avait eu l'attentat qui a coûté la vie au premier ministre libanais, monsieur Hariri. Que le président de la République française de l'époque, M. Chirac, en avait conçu une très grande amertume, car il avait des liens non seulement politiques mais personnels avec le président Hariri, et il en avait accusé, comme il faut bien le dire, l'ensemble de la communauté internationale, plus ou moins les autorités syriennes, sans preuve, mais c'était le sentiment général. Et ceci venait à la suite de contacts qui avaient eu lieu, dont les premiers à mon initiative, entre le président français, M. Chirac, et le nouveau président syrien, le jeune Bachar el-Assad à l'époque, qui avait été décevant, c'est-à-dire qu'il n'avait pas permis de déboucher sur quelque chose d'utile dans la relation franco-syrienne, et notamment à propos du Liban, puisque, comme vous le savez, la France et la Syrie ont en commun, pour des raisons différentes et d'une façon évidemment différente, une grande attention à tout ce qui se passe au Liban.
Justement, à ce propos, le 30 décembre dernier, depuis le Caire, en présence de Monsieur Hosni Moubarak, le président égyptien, Nicolas Sarkozy avait déclaré officiellement, avec une certaine fermeté, que la France ne parlerait plus à la Syrie du Liban tant qu'un président libanais ne serait pas élu. Michel Sleiman, le chef de l'armée libanaise, a été élu le 25 mai dernier président de la République libanaise. Donc, Nicolas Sarkozy a tenu parole, et donc il faut imputer ce rétablissement spectaculaire de la relation bilatérale essentiellement au fait que le verrou libanais a été levé.
Je pense, oui, que ça a joué un rôle important. Pour vous dire franchement, je pense que de toute façon, on ne peut pas traiter les relations internationales, et en particulier on ne peut pas traiter la relation syro-libanaise à coup d'oukase. Il faut tenir compte des réalités, il faut la diplomatie est un jeu complexe dans lequel l'emporte-pièce n'est généralement pas de bon conseil.
Et Hervé de Charette, on a aussi entendu Bachar el-Assad nous dire que la France pourrait être, je cite, un parrain d'un processus de paix renouvelé au Proche-Orient. Il reprend un peu l'idée de son père à Fès en 96. Alors, premier point, quelle appréciation faites-vous des pourparlers indirects, hein, pour l'instant encore, entre la Syrie et Israël engagés en mai dernier? Et puis deuxième point, quel rôle pour la France dans ce nouveau processus, entre guillemets? Je sais que vous êtes très, très prudent sur le vocabulaire de processus de paix.
C'est-à-dire que je n'aime pas beaucoup le mot processus de paix, parce que l'expérience qu'on en a est tragique. L'expérience qu'on a du mot processus de paix date des années 93, 94, 95, quand on a cru que les négociations israélo-palestiniennes allaient vraiment déboucher sur quelque chose qui serait la paix. Alors, avec sagesse, on a dit processus, parce qu'on a dit, bon, on va prendre les problèmes un peu dans l'ordre, les plus faciles d'abord, les plus difficiles en dernier, mais ça y est, c'est parti, c'est en route, il y a quelque chose qui fonctionne, des deux côtés, on en a envie. Bon. Puis, quand vous faites le bilan 12 ans après, ou 13 ans après, en 2008, vous dites, qu'est-ce qui s'est passé depuis lors? La paix? Ah, sûrement pas. La situation est plus grave 13 ans après que au moment où on a lancé le processus. Mais quel est le bilan? 350 000 Palestiniens, pardon, Israéliens, installés dans cette malheureuse Cisjordanie. Donc, le processus de paix, ouais. Les mots processus de paix évoquent pour moi un véritable désastre dans la région.
Le vocabulaire est piégé, alors que vous venez de le rappeler, la colonisation israélienne continue dans les territoires occupés palestiniens.
Alors, par contre,
justement, alors que dire de ce processus entre guillemets indirect engagé et rendu public par la partie syrienne en mai dernier entre le gouvernement syrien et la partie israélienne par l'intermédiaire de la Turquie.
Enlevons le mot processus et simplement observons ce qui se passe. La Syrie est en train de mener une politique qui est destinée à lui permettre de retourner dans le concert des nations. Quoi qu'on puisse en dire, il est vrai que être mis au banc des nations, c'était pour la Syrie quelque chose de très négatif. Et d'autre part, il faut voir que ce qui se passe en Syrie pour l'instant, c'est une véritable explosion économique. Grâce notamment à l'argent des pays du Golfe, la Syrie connaît aujourd'hui un renouveau extraordinaire qu'elle n'a pas connu, il faut bien dire, pendant 30 ans, parce que pendant 30 ans, elle a été à l'écart des grands courants du monde, et notamment à l'écart des grands courants de développement économique mondial. Bien. À partir de là, les dirigeants syriens recherchent comment ils vont reprendre leur place dans le Proche et le Moyen-Orient, qui est lui-même en pleine évolution. Évolution extrêmement rapide, extrêmement forte. Bon. Eh bien, ils ont, dans les conditions qu'on ne connaît pas exactement, ils ont décidé de renouer le contact avec les Israéliens, enfin, moins que ce soit les Israéliens qui aient décidé de renouer le contact, mais leur Israël même, avec le concours d'un pays voisin qui a une position très intéressante, qui est la Turquie.
Ce qui est une façon de se créer un système de médiation régionale et de régler un certain nombre de dossiers suspects bilatéraux entre la Syrie et la Turquie.
Absolument. La relation entre la Syrie et la Turquie a toujours été très compliquée, notamment parce que les Syriens estiment qu'une partie du territoire syrien est actuellement de l'autre côté des frontières turques. Et d'ailleurs, comme vous savez, ils en font reproche à la France. Et d'autre part, parce
que c'est les résidus du Sanjak d'Alexandrette, de la fin du mandat.
Voilà. Et deuxièmement, parce que les Turcs reprochent aux Syriens d'abriter quelques dirigeants ou d'avoir abrité, je pense à Öcalan, des dirigeants opposants et des dirigeants de guérilla contre le gouvernement turc. Donc la relation a toujours été complexe et ambiguë, même s'il y a respect mutuel. Et deuxièmement, les Turcs sont les alliés d'Israël depuis toujours. Et s'ils le sont, ça crée jusqu'à présent une espèce de système d'enfermement de la Syrie avec ses deux principaux voisins qui étaient devenus des menaces. Bien, la Turquie évolue. Elle aussi, elle bouge. Et donc, elle peut devenir un partenaire intéressant et respecté des deux côtés, c'est-à-dire aussi bien par les Israéliens que par les Syriens. Alors, est-ce que tout ça peut déboucher sur quelque chose?
Vous l'avez entendu, le président Bachar al-Assad, finalement, on sent qu'il est plus intéressé par le médiateur régional, finalement, et qui, quand il dit qu'il n'y a pas de leadership politique en Israël, et que les conditions ne sont pas réunies, en tout cas pour son séjour à Paris, d'une ouverture de dialogue direct.
Vous savez, dans la région, on est dans un monde dont les règles sont souvent codées. Ouvrir une discussion ne signifie pas qu'on en cherche la conclusion. Ouvrir une négociation ne signifie pas qu'on cherche la paix. Et l'idée qu'il y ait une paix entre la Syrie, une vraie paix, entre la Syrie et Israël, c'est-à-dire des frontières fixées en commun, des ambassades dans les deux pays.
Et qui s'appuie sur la relation de la résolution de 142 des Nations Unies.
Forcément, qui s'appuie sur quelque chose d'acceptable par les deux. Tout ça, c'est pas pour demain matin. Faut être franc entre nous. Ça n'est pas sûrement pas pour demain matin, car il y a sur ce sujet des conflits très importants, des désaccords très importants entre les Syriens et les Israéliens. Mais discuter, négocier est un but en soi qui contribue à faire entrer la Syrie dans le cercle des nations. Thank you.
politique, dernière partie en compagnie d'Hervé de Charette, ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement Juppé entre 1995 et 97. Avec nous, le ministre commente et réagit à l'interview que le président syrien Bachar al-Assad a accordée à RFI et TV5 Monde mardi dernier à Damas. Hervé de Charette, je vous ai toujours entendu dire qu'il n'y a pas deux politiques étrangères pour la France, mais une seule, celle initiée par le général de Gaulle. Nicolas Sarkozy redeviendrait-il un peu gaulliste ?
Ce serait pas plus mal en matière de politique étrangère, hein, pour le reste autre chose, mais en matière de politique étrangère dans la région, ce serait sûrement une bonne chose. Il est clair que le président de la République française a pris conscience depuis un an qu'il exerce les fonctions qui sont les siennes, que dans la Méditerranée, la France est attendue. Et elle est attendue non seulement, bien entendu, par cette vieille amitié que le président Sarkozy a rappelée à la Knesset, mais elle est attendue par le monde arabe. Vous savez que je suis président de la Chambre de commerce franco-arabe, et je peux vous redire à ce titre à quel point les dirigeants arabes comptent sur l'Europe en général, mais sur la France en particulier, pour peser dans les grands débats qui intéressent la Méditerranée et peser notamment en leur faveur.
Alors plus concrètement, monsieur le ministre, l'Union pour la Méditerranée, c'est un nouveau machin, entre guillemets, ça sert à quoi ? Ou ça va servir à quoi ?
On peut résumer les choses de la façon suivante. C'est parti comme un projet totalement novateur et qui devait effacer tout le reste. Ça se termine heureusement, parce que la première solution était très conflictuelle et n'aurait débouché que sur des impasses.
Vous parlez du processus de Barcelone initié en 1995.
Ça se termine heureusement par la relance du processus de Barcelone. Parce que maintenant, en réalité, le nouveau dispositif s'appelle processus de Barcelone-Union pour la Méditerranée. Autrement dit, les idées nouvelles de la France s'accrochent aux dispositifs préexistants et vont contribuer à lui redonner une dynamique qu'en effet il avait perdue.
Mais précisément, Hervé de Charette et Bachar al-Assad, il fait tout à fait allusion dans ses réponses. Il explique que ça a été une illusion de croire qu'une approche économique genre marché commun du Proche-Orient, tel que le rêvait M. Shimon Peres, qui pourrait digérer les problèmes politiques, a été une des causes majeures de l'échec du processus de Barcelone. En quoi et pourquoi l'Union pour la Méditerranée réussirait-elle mieux que le processus de Barcelone sur les questions politique ?
Il faut mettre la politique au service de l'économie. Il faut essayer de tirer les leçons de l'échec du processus de Barcelone pour agir. L'échec de Barcelone, il est dû à deux raisons principales. Premièrement, on a mis la politique en travers de l'économie, c'est-à-dire qu'on a utilisé l'affaire israélo-palestinienne pour bloquer les choses.
Et le conflit du Sahara occidental, et le conflit chypriote, etc.
Voilà. Alors maintenant, il faut aussi considérer que ce grand processus dans lequel il y a toutes les nations européennes et toutes les nations du pourtour méditerranéen se retrouvent ensemble et décident de travailler en commun sur des problèmes concrets, en faisant abstraction des conflits qui, par ailleurs, doivent se régler. Évidemment, ça suppose quand même que sur les autres sujets, il y ait une disponibilité d'esprit positive, évidemment, parce qu'on ne peut pas faire à la fois l'échange commercial et la guerre. Mais il faut essayer de mettre ce processus sur des problèmes concrets. Ça, c'est la première chose. Donc, développer l'économie ici, développer les relations universitaires là, travailler sur le dessalement de l'eau de mer ailleurs, etc. Deuxièmement, le processus prévoit désormais la création d'un secrétariat permanent avec deux co-présidents, deux co-secrétaires généraux, l'un du Nord, l'autre du Sud. Je pense qu'un petit dispositif de ce genre, que personnellement j'avais proposé il y a 4 ans dans le cadre de l'Institut euro-méditerranéen que je préside, eh bien devrait permettre d'avoir un système de relance perpétuelle des choses. Parce que c'est vrai que si on se laisse entre les mains, par exemple, de la Commission européenne, quels que soient ses mérites, moi je ne suis pas de ceux qui la critiquent, mais bon, elle a d'autres soucis, d'autres préoccupations. Il est probable qu'elle ne donnera pas l'impulsion nécessaire. Alors que ce secrétariat commun, cette coprésidence, ce siège commun, ce sera évidemment l'incitation à avoir des projets concrets, à voir comment ils avancent, comment ils se se réalise et agit ensuite.
Sur un plan régional plus élargi, du Maghreb au Machrek, nous avons évoqué avec Bachar el-Assad les risques, vous l'avez entendu, d'intervention militaire contre l'Iran. Monsieur le ministre, quelle est votre appréciation?
D'abord, je n'y crois pas. Bon, voilà, je vous défends.
Malgré
pas.
Les appels répétés du chef d'état-major israélien Shaul Mofaz à une intervention qui ciblerait soit des sites nucléaires, soit des bases de Pasdaran sur le territoire iranien, malgré les préparatifs militaires américains, malgré le séjour dernièrement pendant 3 jours du chef d'état-major américain à Tel Aviv, etc., malgré tous ces signes.
Oui, je persiste à ne pas y croire, mais c'est vrai que là, ça relève du doigt mouillé, que je peux me tromper. Il y a 2 hypothèses militaires possibles. Une intervention américaine, elle me paraît totalement exclue. Les Américains n'ont pas les moyens de se payer une 3e intervention dans la région. Il y a déjà assez de dégâts commis pour qu'ils n'en fassent pas davantage. Et de toute façon, en fin de mandat, le président ne peut pas faire cela. Par contre, ce qui est plus plausible, ce qui est déjà plus plausible, c'est une intervention ponctuelle israélienne du type Osirak. C'est-à-dire
1980.
Voilà, c'est un bombardement de cibles précises. Les avions vont, bombardent et rentrent. Ou du type de ce qui s'est passé en Syrie, il n'y a pas si longtemps.
Oui, absolument.
Alors ça, c'est toujours possible. Moi, je pense que les relations entre l'Iran et le reste du monde ne peuvent pas se résoudre par la politique de la bombardière.
Pas de politique de bombardement, pas de politique de canonnière, mais effectivement revenir à la table de négociation et revenir à un des fondamentaux de la diplomatie française, c'est-à-dire un règlement régional global.
Trouver des solutions. L'Iran est désormais une puissance politique, une puissance économique. Elle est à la recherche depuis maintenant bientôt 20 ans de sa place dans la région. Et je crois que c'est ça le sujet. On a du mal parce que la situation interne iranienne est elle-même très compliquée. On a du mal parce que les Américains ne comprennent pas bien la région. On a du mal parce qu'il y a des grands conflits, des grandes tensions autour de l'Iran lui-même. Faut bien voir, nous sommes ici à Paris. Enfin, l'Iran est entouré d'une guerre en Irak qui a des effets en Iran et qui crée de l'instabilité en Iran. D'une guerre en Afghanistan qui était à son autre frontière, qui n'est pas sans conséquence non plus.
Donc, d'infiltration salafiste au nord et les faces à l'Arabie Saoudite et au pays du Golfe.
Voilà, donc il y a des recherches. Le monde arabe, et notamment l'Arabie Saoudite et les pays du Golfe, recherchent un arrangement avec l'Iran. C'est clair. Et nous devons être, nous, les Français, sur la même ligne.
Hervé de Charette, justement, derrière la politique des invitations spectaculaires à Paris, on va reparler de la diplomatie française, peut-on parler justement d'une nouvelle diplomatie française au Proche-Orient?
C'est trop tôt pour le dire. Le président de la République est arrivé à l'Élysée. Tout le monde a eu l'impression qu'il voulait en effet changer profondément les choses à partir d'un nouveau rapport avec l'État d'Israël et d'un nouveau rapport avec les Américains. Mais bon, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, je pense que la politique étrangère d'un pays est très dépendante de sa géographie, de son histoire, de 1000 facteurs qui font que changer de politique étrangère n'est pas si simple. Et je crois que progressivement, on va s'apercevoir que nous reprendrons, peu ou prou, avec des nuances, avec des différences, nous reprendrons les chemins qui nous sont traditionnels et qui font qu'en Méditerranée, nous sommes reconnus, estimés et considérés.
Et qui passent par le chemin retrouvé de Damas. Monsieur le ministre, merci et à bientôt, j'espère. Merci aussi à Nicolas Catonnet pour la réalisation à Paris et à Roy Samara pour la réalisation à Damas. Merci enfin à Delphine Delcambre pour la mise en onde. À la semaine prochaine, mais restez avec nous pour un nouveau journal sur RFI dans une poignée de secondes.